prenez Hubert Robert, qui va quand même être le fondateur du Louvre tel que nous le connaissons.
Marcelin Plenet.
Et vous vous apercevez qu'il va, par exemple, présenter le Louvre tel qu'il voudrait qu'il soit, avec l'éclairage zénital, c'est-à-dire qui invente le Louvre, qui projette le Louvre dans l'avenir, et qui en même temps va représenter le Louvre, la même grande galerie, en ruine. Donc, cet optimisme est habité par une mélancolie et une sorte de pessimisme par la même occasion.
Mais alors c'est un voyage dans le temps qu'il fait là, par exemple, en représentant la Grande Galerie en ruine, mais un voyage dans le temps, à votre avis, qui est plus mélancolique ou qui est plus de l'ordre finalement de, je vais utiliser le mot de science-fiction, ça va pas du tout, mais enfin, d'une espèce de futur du futur où il voit de nouveau la galerie en ruine.
Sa vision de la galerie, telle qu'elle va être constituée, est une vision d'artiste qui sait ce que c'est qu'un tableau et qui sait comment ça s'éclaire, n'est-ce pas ? Et qui plus est, a aussi cette particularité d'avoir travaillé en plein air, à Rome notamment. Donc, c'est une vision d'une grande intelligence et d'une grande sensibilité. De ce point de vue-là, c'est une vision très positive, très 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 positive. Mais elle est confusément, parce qu'à mon avis, ça n'est pas du tout explicite. Ça n'est pas du tout explicite, et le personnage lui-même n'apparaît pas du tout comme mélancolique. N'est-ce pas ? Diderot le présente comme un homme ambitieux qui a une très jolie femme et qui ne fait pas d'économie. Donc, ça n'est pas explicite, mais c'est implicite. Hubert Robert est implicitement habité par cette mélancolie, mais qui est sienne dans la mesure où elle lui permet de réaliser aussi d'admirables tableaux. Mais dans la mesure aussi où il ne peut pas penser le positif sans penser en même temps implicitement le négatif. Donc on a, avec ces deux visions de la Grande Galerie du Louvre, tout à fait la philosophie sensible d'Hubert Robert, l'intelligence sensible d'Hubert Robert. Les deux choses sont inséparables. Ce que nous avons de plus précieux est habité par ce qui va disparaître. Je crois que c'est Pierre Rosenberg qui dit à un moment donné « Hubert Robert est dans le temps, là où Fragonard est dans l'instant. » Il n'y a pas de mélancolie dans l'instant, il y a une mélancolie dans le temps.
Avec quel étonnement, quelle surprise, je regarde cette voûte brisée, les masses surimposées à cette voûte. Les peuples qui ont élevé ce monument, où sont-ils ? Que sont-ils devenus ? Dans quelle énorme profondeur obscure et muette mon œil va-t-il s'égarer ? À quelle prodigieuse distance est renvoyée la portion du ciel que j'aperçois à cette ouverture ? L'étonnante dégradation de lumière, comme elle s'affaiblit en descendant du haut de cette voûte sur la longueur de ses colonnes, comme ces ténèbres sont pressées par le jour de l'entrée et le jour du fond, on ne se lasse point de regarder. Le temps s'arrête pour celui qui admire. Que j'ai peu vécu, que ma jeunesse a peu duré.
Voilà, il va jusqu'au bout de sa réflexion et donc représente la galerie telle qu'elle serait dans un temps très lointain, je l'espère, donc présentée en ruine, comme une ruine romaine qui en même temps donne la légitimité en fait à sa réflexion sur la galerie comme monument intemporel relié aussi à la tradition antique. C'est dans ces galeries en ruine, lorsque les voûtes sont effondrées, qu'on a justement la perception de cette lumière qui pénètre dans le bâtiment. Donc il y a un jeu comme ça entre le passé et l'avenir, avec lequel Hubert Robert joue de manière tout à fait virtuose et qui, évidemment, est ce que l'on aime avant tout dans cet artiste pré-romantique. Alors ça, donc, c'est la vue imaginaire de la Grande Galerie. Et Hubert Robert a donc eu la fantaisie d'inventer un pendant à ce tableau qui représente la même galerie, mais en ruine. On aperçoit la même architecture, mais avec la voûte qui est brisée, effondrée. Et dedans, des vestiges qui rappellent ce que nous avons vu dans le tableau précédent. Il y a au pied de l'Apollon du Belvédère un buste du jeune Raphaël qui est un peu de travers, enfin comme on peut en trouver les vestiges dans les ruines romaines. Et devant l'Apollon du Belvédère, toujours un dessinateur qui dessine l'Apollon comme si... les œuvres étaient éternelles, malgré l'effondrement du bâtiment et sans doute l'effondrement de la civilisation qu'il représente. Eh bien, il y a toujours des œuvres d'art qui font l'admiration de jeunes artistes qui donc perpétuent cette tradition antique.
Et que font ces trois personnages à gauche, regardant une tête?
À gauche, ils fouillent, en fait. Ils sont là, en train d'examiner leur découverte. Comme les antiquaires, c'est-à-dire les archéologues de l'époque fouillaient dans les ruines de Pompéi ou de Paestum.
Et alors c'est drôle, il y a un chaudron là, il y a un
voilà,
feu qui est allumé.
Toujours la petite note vivante chez Hubert Robert, la note pittoresque. On voit deux femmes habillées comme des romaines du XVIIIe siècle en train de se chauffer à côté d'un chaudron. Là aussi, c'est... Oui. C'est un mélange de noblesse et de quotidien.
Et un total changement de fonction, alors, avec ça, par exemple, de voir ces deux femmes qui se chauffent auprès du feu.
Tout à fait,
avec ce chaudron
incongru,
oui, dans
incongru,
une galerie
tout à fait.
De musée.
C'est d'autant plus incongru qu'en principe, la galerie est au premier étage, et alors que là, Robert a représenté une galerie qui est au rez-de-chaussée. On a au sol, c'est de la terre. Donc là aussi, c'est une transposition complète. Mais on a la même impression de cette galerie immense. Et vous voyez à quel point l'effondrement de la galerie, en fait, rappelle cette implantation de verrières qui permettent à la lumière zénitale de pénétrer. Donc c'est comme si cette œuvre justifiait en fait le projet de la Grande Galerie.
Et puis alors, ce qui vit davantage, évidemment, c'est le ciel, les nuages,
voilà,
et
le
la
ciel,
végétation.
Le ciel, la végétation, exactement.
Qui a poussé sur le
tout à
sur
fait,
la ruine.
Tout à fait. On est tout à fait dans cette poétique des ruines que les poètes de l'époque développent déjà à la fin du XVIIIe siècle, en attendant que Chateaubriand et d'autres donc en face la matière même de leur inspiration. Et vous avez à droite, d'ailleurs, un peu dans l'ombre, un des esclaves de Michel-Ange qui est ébréché, qui est là comme un témoin de la continuité. C'est un des chefs-d'œuvre donc de l'époque moderne qui se retrouve là dans la même condition que les chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Ce qui est merveilleux chez Hubert Robert, c'est que tout ça aussi fonctionne, j'allais dire, parce qu'on est dans une sorte de peinture utopique. C'est un peintre d'architecture, mais vous voyez que c'est le traitement de la lumière qui rend l'œuvre tout à fait crédible. Il sait parfaitement faire vibrer avec la lumière, avec des forts effets de contre-jour, qui, là encore, forment une sorte d'assise pour sa composition. Et justement, le ciel là est très important puisqu'il apporte cette espèce de grande tache lumineuse et qui le distingue du premier plan qui est volontairement dans l'ombre. Et là, nous traversons donc le palier de l'escalier de la Samothrace qui, au XVIIIe siècle, était occupé par l'Académie royale de peinture et de sculpture. C'est donc ici que Hubert Robert a, en 1765, donc présenté son morceau de réception pour être admis comme peintre d'architecture.
On parlait tout à l'heure de l'éclairage zénital de la Grande Galerie. C'est une préoccupation de lumière. Donc elles sont prises dans une lumière et, si je puis m'exprimer ainsi, dans la lumière d'un peintre et d'un homme qui aime ce qu'il vit et qui aime ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il vit et quel que soit ce qu'il fait. Il y a en effet, et ça, on retrouve ça chez les très grands artistes, il y a en effet une lumière qu'on pourrait presque dire une lumière de l'âme qui assume tout ce qui lui est présente. Il y a cette lumière, et bien entendu, chez Hubert Robert, elle est d'abord romaine. Et cette lumière surprend toute personne sensible dès qu'elle arrive à Rome. Mais cette lumière, évidemment, est vécue de façon très intime et avec un affect tout à fait particulier par un peintre. Donc il y a une sorte de doré qui se pose sur ces ruines, n'est-ce pas, qui témoigne qu'elles sont accueillies telles qu'elles sont, mais avec un vrai sentiment à la fois poétique et à la fois poétique et existentiel, c'est-à-dire un vrai sentiment de vécu. Un vrai sentiment de vécu avec bonheur. Elles sont vécues avec bonheur.
Ça, c'est la ruine du moulin, qui était pas qu'une fabrique, hein, c'était un vrai moulin, c'était le moulin du village. Hein.
Ah, c'est là.
Ouais, il est très...
Oh, mais c'est beau.
C'est très beau.
J'aurais jamais cru que c'était un moulin.
Et en fait, il avait un toit chinois. Il a...
Sur des colonnes doriques.
Ouais, ouais,
toujours
oui.
Les mélanges.
Ah, oui, c'est un bâtiment carré.
Oui, oui. C'est très romain, si vous voulez, par certains côtés. La colonne dorique, ça rappelle Paestum, ça rappelle... Et il y a le tombeau de Cook, c'est tout à fait ça. C'est la colonne dorique courte, plantée en terre. C'est celle que Rousseau adorait comme étant l'image de ce qu'il appelait l'héroïsme antique. Voilà.
Et
la république pure et dure des débuts de Rome et de la Grèce.
Et la polychromie de la pierre, de la brique et de la laitance de haut fourneau, hein, ah oui. Qui fait cette couleur bleu foncé.
C'est fort bien dessiné.
Ah oui, un beau témoignage.
Alors ici, vous êtes devant la laiterie. Vous pouvez voir ces trois grottes. Il y avait de l'eau qui sortait là pour rafraîchir le bâtiment. Donc voici la façade qui était là devant nous et qui a été évidemment arrachée comme monument historique et transportée à Jeurs. Alors, c'était on gardait le lait,
fond,
le
ce
beurre.
Ce qu'on voit, c'est le fond de la laiterie.
Vous voyez le fond de la laiterie. Arrivé là, de l'eau froide qui servait donc à garder au frais tous les produits de la ferme, c'est-à-dire le lait, le beurre, etc. Et donc, l'eau circulait partout. C'était un endroit où il y avait une profusion d'eau. Et encore une fois, avec des grottes au fond, c'est-à-dire que c'était à la fois l'utile et l'agréable. Agréable parce que c'est quand même artistique. Ces grottes sont quand même des constructions de l'époque tout à fait... Enfin, intéressante, c'était artificiel, hein. Mais en même temps, ça donne une idée de la fraîcheur, oui. La fraîcheur pour la laiterie, c'est très très bien. Donc toujours ces rochers contournés, complexes, oui. C'est les mystères.
C'est ceux-ci qui sont très... Oui. C'est des sortes de conglomérats.
Oui.
Il y a des rochers lisses, il y a des rochers rugueux.
les congélations, comme on disait des fois à l'époque. Et puis alors, oui, des grottes comme ça, dans tous ces jardins paysagers, il y en a eu. C'était cette curiosité pour la géologie qui commençait, pour les entrailles de la Terre, pour les volcans aussi. Vernet a peint des volcans, beaucoup de peintres de l'époque faisaient le voyage du Vésuve et revenaient avec des peintures de volcans. C'était toujours, qu'est-ce qu'il y a en dessous de nous, quoi. Et c'est tout à fait intéressant.
On sent et quand on voit cette laiterie aujourd'hui, ou tout au moins ce qu'il en reste, on ne pense pas, on penserait pas du tout que ce soit une laiterie.
Parce qu'on voit
que la grotte, on voit
vous voyez que la grotte du fond, mais sinon c'était couvert. Et donc il y avait
Nous sommes à l'intérieur. Là,
et c'est ça, et il y avait de grandes tables de marbre blanc qui étaient le long de ces murs et qui servaient à entreposer les produits de tout ce qui était laitage, lait, beurre, etc. Fromage, tout ce qu'ils faisaient dans une laiterie.
Au fond, ce sont des fabriques qui ont une utilité.
Une utilité, bien sûr, oui. Sauf, par exemple,
ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les fabriques.
Non. Il y a des fabriques purement décoratives, comme le temple de la piété filiale, qui était purement décoratif. Mais sinon, oui, par exemple, le moulin servait aussi au village. Et donc, ce n'est pas étonnant que ces fabriques aient eu un rôle utilitaire. Oui. Alors là, nous avons devant nous les restants du Grand Lac, qui est maintenant couvert de végétation, mais qu'on va petit à petit remettre, n'est-ce pas, à l'état où c'était du temps des Labordes. Et il y a dans cette lac les des îles, et certaines îles sont restées très célèbres. Il y avait la fameuse colonne rostrale, le monument à la mémoire des deux fils Labordes morts dans l'exposition de la Pérouse. Et il y avait une autre île qui s'appelait l'île Nathalie, parce que c'était l'île qu'aimait bien une des filles des Labordes, Nathalie.
Et Hubert Robert l'a peint alors, ce lac.
Ah oui.
Il a peint des vues.
Ah oui, il a peint le. Il l'a fait sous beaucoup d'angles, et même des fois en mêlant les choses. C'est-à-dire qu'il a mis par exemple la laiterie à côté de, mettons, du pont des Roches, alors qu'en fait ce n'était pas possible. Mais c'était comme une carte postale où vous avez par exemple Saint-Malo avec les différents aspects de Saint-Malo, vous voyez, sur la même carte. Et il a fait ça aussi des fois. Oui.
Et il le faisait souvent d'ailleurs quand il peignait des monuments comme ça dans les villes.
À l'époque, ils appelaient ça des caprices aussi. Ils supposaient comme ça, oui, des caprices. Oui.
Voilà, donc en marchant, Michel Baridon, dans le domaine, en sinuant autour d'un marais, on est arrivé de nouveau au bord de la Juine, et juste en face, on voit ce fameux pont ruiné.
Ce fameux pont ruiné, oui, qui est le départ au fond d'un pont, et interrompu volontairement. Donc, et là-dessus, après, on avait mis une structure en bois, de façon à donner ces impressions toujours de pittoresque, c'est-à-dire de matériaux qui intéressent le pinceau du peintre, parce qu'il est comme très fin, très ténu, il fait une dentelle de bois qu'on voit en transparence sur le ciel. Et ça les intéressait beaucoup, le contraste entre la masse de pierre qui semble porter le pont, puis qui s'arrête et qui est relayée par ces structures de bois extrêmement complexes, extrêmement entrecroisées, mais laissant filtrer la lumière. Donc contraste entre l'assise de pierre et le pont de bois. Et ça, c'est le genre d'effet qui fascinait des gens comme Hubert Robert, parce que toujours, il trouvait cette variété et cet intérêt tactile et visuel à la fois, qui était celui du peintre pour les choses.
Et puis, il y a évidemment la préoccupation de la ruine chez Hubert Robert.
Aussi.
Et là, il nous a construit une ruine.
Oui, dans ces jardins paysagers, le temps est entré avec les ruines, qui sont l'image même du passage du temps. Mais ces ruines les intéressent parce que, comme elles n'ont pas de surface plane, elles se prêtent par leurs anfractuosités à des jeux de lumière très complexes. Elles peuvent donner prise à la nature qui repart sur les ruines. Et par conséquent, c'est encore une image supplémentaire du temps qui fait que ces ruines, qui peuvent être soi-disant séculaires, en même temps sont coiffées de végétation de l'année. Donc ce sont des façons... le temps se déroule à plusieurs rythmes. Et c'est ça qui les intéresse. Et c'est vrai qu'un des grands charmes des jardins, c'est qu'ils présentent un déroulement du temps à plusieurs vitesses. Il y a le temps de la goutte d'eau, il y a le temps du soleil qui passe en 24 heures, il y a le temps des saisons, il y a le temps des siècles sur les fabriques. Donc cette richesse de déroulement du temps est une chose qui captivait les gens du XVIIIe siècle. Et ça, c'est vrai qu'ils ont été, en même temps, c'est l'époque du roman. Or, le roman, c'est bel et bien l'histoire d'un amour, par exemple, ou d'une vie prise dans le temps. Et donc, c'est très, très différent de ce qu'était, par exemple, la tragédie classique, qui concentrait une crise sentimentale en 24 heures, en un seul lieu, etc. Eux, au contraire, le roman a dilué les crises sur toute une vie, sur un temps long, qui convenait... totalement à l'esthétique du jardin à la même époque.
Michel Baridon, quand on voit ce jardin, quand on pense donc que Hubert Robert y a quand même mis son empreinte, on se dit qu'il y a quelque chose de très paisible finalement. On se dit que les ruines qu'il a pu peindre, que ce sentiment du temps, que peut-être cette angoisse du temps, je ne sais pas, est là au contraire, rend ici au contraire quelque chose de très, très serein.
Oui, je pense que la philosophie des Lumières, de ces gens-là, des Lumières, était d'accepter le temps de la nature et de considérer l'homme comme un être qui, sorti de la nature, y retournerait un jour. Et que par conséquent, la mort n'était pas un objet d'épouvante pour eux. Et ils devaient reprocher beaucoup, je pense, au siècle précédent, la façon dont on avait exploité la mort pour faire peur aux hommes. Et eux, c'était des hommes sans peur, au fond, dans un sens, et qui étaient prêts à envisager la mort sereinement. Et le charme du bruit de l'eau aussi. Ces gens du XVIIIe siècle aimaient la variété en tout, non seulement dans les couleurs, mais dans les sons aussi. Et alors ça faisait partie du plaisir de passer par exemple à côté d'un arbre où il y avait un oiseau qui chantait, près d'une cascade où on entendait l'eau qui vous rafraîchissait et qui en même temps vous racontait une histoire éternelle. Voyez. Donc il y avait le besoin de mélanger le temps aussi. C'est-à-dire l'oiseau, c'est le temps de l'instant, la cascade, c'est le temps de, enfin même pas de l'histoire, mais de la vie éternelle. Et donc il y a ce souci d'avoir le maximum de variété. Et c'est pour ça que dans ces jardins-là, à la grande différence des jardins français, le temps est extrêmement présent. C'est pour ça qu'il y a des tombes, pour ça qu'il y a des hommages à des morts et des choses comme ça, parce que le temps est présent dans ces jardins paysagers.
On va sous le pont.
Oui.
C'était comme un écho. Dans leur vaste atelier, il y avait ce jour-là un projet de jardin pour Mantoue. Depuis longtemps dans leur vie d'artiste, il y avait les ruines. Vivante leçon d'architecture, mais intuition de la fragilité des choses. Il y avait Rome arpentée et la fascination des ruines. Se sont-ils souvenus un jour d'Hubert Robert, Anne et Patrick Poirier, résonance des ruines au XXIe siècle.
Quand on a fait notre travail, on n'a absolument pas pensé justement à Hubert Robert ou aux ruinistes. Qui nous a beaucoup plus inspirés, ça serait plutôt Piranès, parce que Piranès n'était pas seulement un peintre de ruines, mais c'était aussi un archéologue et un architecte. Pourtant, maintenant que je regarde rétrospectivement Hubert Robert, je me rends compte qu'il y a une chose qui est commune, mais qui n'était pas du tout volontaire ni étudiée pour nous, c'est que, en fait, Hubert Robert construit des ruines tout à fait imaginaires. Il n'a pas du tout une démarche d'archéologue ni d'architecte. Il a plutôt une démarche imaginative. Il construit des décors imaginaires de ruines. Et en ce sens, il y a un irrespect de l'histoire ou une fantaisie à partir de l'histoire qui pourrait aussi se rapprocher d'un certain aspect de notre travail.
Ce qui est intéressant, c'est toujours c'est de prévoir les bâtiments en ruine. Et on a fait ce qu'on avait appelé l'incendie de la Grande Bibliothèque dans les années 74-75. On avait été invité par Jean-Louis Froment au CAPC à Bordeaux pour participer à l'exposition. On avait habité Bordeaux à ce moment-là et on avait construit cette bibliothèque incendiée à Bordeaux dans les entrepôts de l'aîné, qui était juste le début du CAPC. Et on a pris le plan du CAPC comme modèle de cette bibliothèque incendiée. Et donc là, de nouveau, ça se recoupait, mais c'est un peu par accident. Voilà, donc c'est un peu par vague. Mais en général, Bon, il y avait Sloane aussi qui nous intéressait parce que bon, il avait prévu la Banque d'Angleterre en ruine, etc. Donc tout ça, c'est des recoupements qui par moments nous intéressent et puis par d'autres moments, finalement, ça nous intéresse moins.
En fait, Hubert Robert, on nous parlait toujours de la Galerie du Louvre en ruine et qui peut aussi avoir une analogie, comme le disait Patrick, avec l'incendie de la Grande Bibliothèque parce qu'on imagine les ruines du futur. Et ça, souvent, dans notre travail, on a imaginé les ruines du futur. Mais ce n'était pas forcément des ruines romantiques. Souvent, c'était des ruines de notre paysan. Par exemple, une œuvre que nous avons réalisée en 2000, qui s'appelait Exotica, représentait une de nos villes du présent, retrouvée par des archéologues du 22e siècle, après sa destruction. Et donc, c'était une maquette toute noire, énorme, construite, on avait mis plus d'un an à la construire, avec le matériau étant les rebuts, donc déjà les ruines, des objets du présent, de ce qu'on utilise comme tout ce que boîtes, containers, objets que nous avons entre les mains tous les jours. Donc, cette grande maquette, Exotica, était une prévision des ruines du futur. Et en fait, les ruines de la Grande Galerie du Louvre sont aussi une vision des ruines du futur, mais en ce qui concerne l'aspect plus culturel, les ruines de la culture.
Ce qu'il y a, je trouve que, c'est, dans un sens, c'est une vision de la ruine qu'on ne peut plus avoir à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les ruines sont toujours jolies, romantiques, on se promène en bateau, c'est idyllique. Dans la galerie du Louvre, ça devrait être quand même dramatique, quand même, parce que c'est le Louvre, etc., tout est cassé, etc. Non, les gens sont là, ils sont là en train de regarder, ils sont tout contents, il y en a presque qui pique-niquent, ils font un petit barbecue, etc. Donc c'est gentil, c'est gentillet, quoi. C'est pas... pour nous, la ruine, c'est pas ça. Je veux dire, la ruine, c'est des marques du temps terribles. Et parce que finalement, à part les ruines du temps, mais on ne sait pas du tout comment elles se sont faites, finalement, parce que vous allez dans un site archéologique, d'accord, c'est très beau, il y a les herbes qui ont poussé, et les trucs, les pierres sont un peu enfoncées, avec des machins, tout ça, mais c'est le résultat de quelque chose. C'est le résultat toujours de soit d'une guerre, soit d'un
tremblement de terre,
soit on a les populations ont dû laisser cet emplacement parce qu'il y avait eu des tremblements de terre ou autre. Donc, c'est le résultat de drames. C'est le résultat de quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. Et dans Hubert Robert, pourquoi ça ne nous a jamais intéressé? Parce que lui, il se promène là, avec une petite fleur dans la bouche, comme ça, en regardant. Puis après, il peint son petit truc, il a vu des beaux monuments, il est réuni. Alors, comme il est bien placé, alors il voit les trucs, comme ça. Bon, ça ne nous intéresse pas. C'est trop joli.
Grand escalier qui conduit à un ancien portique. Sur le fond et dans le lointain, à droite, une pyramide, puis l'escalier. Au côté droit de l'escalier, à sa partie supérieure, un obélisque. Au bas, sur le devant, deux hommes poussant un tronçon de colonne que quatre chevaux n'ébranleraient pas. Absurdité palpable. Sur les degrés, une figure d'homme qui monte. Vers le milieu, une figure de femme qui descend. Au haut, un petit groupe d'hommes et de femmes qui conversent. À gauche, une grande fabrique, une colonnade, un péristyle dont la façade s'enfonce dans le tableau. Les degrés de l'escalier aboutissent à cette façade. La partie inférieure de cette fabrique est en niche. Ces niches sont remplies de statues. Des groupes de figures qu'on a peine à discerner sont répandus dans les entrecolonnements de la partie supérieure.
Alors il va transformer ces architectures et ces ruines, il les mène vers l'imaginaire. Bon d'accord, il fait des caprices où il réunit comme ça dans le même lieu des monuments qui ne sont pas ensemble dans la réalité. Mais au-delà de ça, je pense qu'on peut parler de l'imaginaire de Robert Robert dans sa peinture.
C'est une question que je me pose et... toute proportion gardée, je crois que je me retrouve là avec Diderot, qui se pose la question, et qui reproche en effet Hubert Robert de ne pas avoir assez d'imagination.
Mais il lui dit parfois qu'il copie, que c'est
voilà,
la copie.
Voilà. Il lui reproche un manque d'excès. Il y a même dans le premier texte de Diderot sur le salon de 1767, il y a même un texte où Diderot se laisse absolument emporter par son imaginaire jusqu'à écrire des choses qui sont tout à fait, qu'on dirait aujourd'hui, quasi pornographiques. Donc l'imaginaire d'Hubert Robert est un imaginaire raisonnable. C'est un imaginaire raisonnable porté, encore une fois, et ça il faut le dire, par un génie poétique tout à fait exceptionnel. Il y a en effet une poétique d'Hubert Robert. Cette poétique comprend les ruines, mais comprenant les ruines, elle comprend aussi une certaine mélancolie. Vous parliez tout à l'heure de cette projection dans l'avenir. Je crois que c'est ce qui arrive à des artistes et à des écrivains de génie, d'une certaine façon. C'est de non pas de prévoir l'avenir, mais de vivre comme si l'avenir était déjà présent pour eux. Il y a une jolie phrase de Hegel que j'aime beaucoup, qui dit « Les révolutions qui apparaissent ont déjà eu lieu, sans qu'on s'en soit aperçu bien avant. » Eh bien, je crois que cette mode des ruines, pour le XVIIIe siècle, cette mode des collections pour le XVIIIe siècle qui rassemble le passé, témoigne que dans un imaginaire implicite, la révolution a déjà eu lieu. Et lorsqu'elle apparaît, elle apparaît à ce moment-là comme une catastrophe. Elle apparaît vraiment sous son aspect le plus monstrueux. Il faut quand même dire que Hubert Robert a été arrêté, qu'il a été envoyé à Sainte-Pélagie, où d'ailleurs un des historiens de Sade suppose qu'ils se sont vraisemblablement rencontrés. Vous voyez deux mondes là qui se rencontrent de façon tout à fait inattendue. Il faut aussi souligner que, et ça, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est un fait établi, qu'il n'aurait dû la vie qu'au fait que le nom de Robert était un nom très répandu et qu'il y avait beaucoup de Robert à Sainte-Pélagie. Donc il aurait dû être guillotiné. Eh bien, voilà un homme qui survit à lui-même et qui a en quelque sorte prévu implicitement que son époque était habitée par cette catastrophe. Et qu'au fond, le temps lui-même, si on le considère dans sa chronologie, or c'est le propre du XVIIIe siècle de penser le temps comme chronologique. C'est ce qui fait dire en effet à Rosenberg que Hubert Robert est dans le temps. C'est ce qui fait que Proust s'y reconnaît. Le temps est vécu comme chronologique. Or, le temps vécu comme chronologique, eh bien, c'est tout simplement celui qui mange ses enfants. C'est le temps qui est habité par sa propre destruction. Et je crois que c'est vraiment là le génie d'Hubert Robert, c'est d'avoir assumé sans pathos, parce qu'il n'y a pas de pathos dans cette œuvre. C'est d'avoir assumé sans pathos la réalité de ce temps.
Deuxième étage, peinture française, 17e, 19e siècle.
L'incendie de l'opéra en 1781, et les choses se situaient à peu près, si on se penchait à la fenêtre qui est à côté, on serait à peu près dans la position d'observateur qui pourrait apercevoir l'opéra en train de flamber. L'opéra était à la place de la Comédie française actuelle, donc c'était tout proche du Louvre, et ça a été un événement dramatique. Hubert Robert, amateur des ruines, s'est précipité pour transmettre, là encore avec tout son art de la lumière, puisqu'on voit des fumées qui sortent, qui là aussi construisent son tableau. C'est tout un jeu d'ombre et de lumière qui noie une architecture qui n'a rien de sec. Hein. C'est un très très beau peintre justement d'architecture qui ne cherche pas absolument à ce que la ligne soit juste, mais qu'il cherche à ce que l'effet soit juste. Et c'est ça qui nous intéresse.
Et là, Marie-Catherine Sahu, on a quelque chose d'intéressant, puisque c'est le croisement entre son talent de, je ne vais pas dire de reporter, mais enfin, bon, il nous met sur le vif dans une situation, et puis en même temps, c'est la ruine en train de se faire. Là.
Tout à fait. Il y a des événements qui ont permis à Hubert Robert de se mettre dans l'actualité à travers son style et son art. Ça a été des événements comme celui-ci, en effet un incendie en plein Paris. Et puis plus tard, ce seront des événements de la Révolution qui lui ont donné une matière absolument extraordinaire. Le plus beau, le plus célèbre étant la démolition de la Bastille qui est conservée au musée Carnavalet et où Hubert Robert a su si magnifiquement exprimer le travail incroyable qui consistait en effet à démonter pierre par pierre cet énorme bâtiment qui occupe toute sa toile. C'est vraiment quelqu'un qui sait compter les choses avec son pinceau. On voit aussi qu'il sait exagérer toujours, mais pour le bien hein, de l'expression, exagérer toujours les perspectives. Des bâtiments, au fond, qui ont une taille normale, deviennent grandioses sous son pinceau. Et c'est ça qu'on a envie de voir, justement.
Ils deviennent immensément hauts.
Immensément hauts, avec et l'homme qui devient une petite trace minuscule et qui exprime donc bien comment l'homme, au fond, reste étonné devant la grandeur d'un monument. Vous voyez en haut du mur qui reste après l'incendie, enfin le mur encore fumant, on voit des petites figures minuscules qui sont en train d'observer ou de s'attaquer en fait à cet événement, à cet incendie. Et ça, c'est très, très, très évocateur de cette vision, en effet, tellement étonnée devant les bâtiments, les événements les événements exceptionnels hein, de l'époque.
Peut-être le côté minuscule de l'homme face au temps.
Oui, absolument. Oui, tout à fait. Et puis la multitude aussi, on voit que les figures sont petites, mais elles sont nombreuses. Donc c'est une sorte de force comme ça qui... une force collective qui s'attaque à des événements comme l'incendie de l'opéra ou plus tard la démolition de la Bastille.
Témoin de son époque, c'est un témoin de ce que son époque découvre du passé à travers les ruines, et c'est un témoin de ce que son époque veut porter au-delà d'elle-même à travers le Louvre. Eh bien, si vous tenez tout cela à la fois, vous vous apercevez en effet que l'œuvre elle-même est sujette à disparition et à ruine. C'est une philosophie de l'art, c'est une philosophie pessimiste, c'est une philosophie pessimiste de l'art quelque part qui va faire énormément école. Donc il y a ça. Donc il y a j'ai bien aimé lorsque vous dites que cette seconde partie du Louvre est d'une certaine façon une projection dans le temps parce que en effet toute la pensée, la sensibilité, l'intelligence, le génie pictural d'Hubert Robert est constituée de cette projection dans le temps, de cette façon d'assumer le passé, mais cette façon d'assumer le passé telle que l'histoire est en train de s'établir, chronologique. Cette façon d'assumer le passé sous la tutelle de Chronos est une façon d'assumer le présent et de projeter cette intelligence du présent dans l'avenir. Autrement dit, on a à ce moment-là la constitution d'une histoire de l'art dans laquelle Hubert Robert occupe, à mon avis, une place considérable. Pas seulement comme conservateur du Louvre, mais pour être conservateur du Louvre, en fait, on peut le demander aujourd'hui à tous les conservateurs du Louvre, il faut en effet avoir une connaissance de l'histoire de l'art. Et cette connaissance de l'histoire de l'art, eh bien, telle qu'elle commence à s'établir à la fin du XVIIIe, telle qu'elle s'établit quasi institutionnellement au XIXe siècle, et telle qu'elle perdure encore au XXe siècle, est une connaissance de l'histoire de l'art liée à un temps chronologique, c'est-à-dire sous la tutelle et la rubrique de Chronos, c'est-à-dire d'une mélancolie vis-à-vis du passé, d'une terreur implicite sur ce que peut être l'avenir.
Avec Jean-François Méjanès, conservateur au cabinet des dessins du Louvre, Marie-Catherine Sahu, conservateur au Louvre, Marcelin Plenet, écrivain, Michel Baridon, historien du paysage, auteur de Naissance et Renaissance du paysage aux éditions Actes Sud, Anne et Patrick Poirier, archéologues et architectes. Les textes de Diderot, Hubert Robert et Marcel Proust sont lus par Éric Herson-Macarel. Remerciements à Jean-Marc Bernard, administrateur du domaine de Méréville, ainsi qu'à Claude Courteau, écrivain, auteur du journal imaginaire de Mes prisons en ruine, édition Corti.
On s'approche en même temps du pont,
oui.
Du pont ruiné.
Oui. Alors là, vous devez avoir des reproductions.
Et il y avait de l'eau, là ?
Oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, oui, il y avait de l'eau, et puis il a peint des vues. Passant sous le pont et avec le château en point de mire. Probablement les arbres n'étaient pas là, ou qu'il les a enlevés pour la commodité de son tableau. Mais on voit bien les assises de l'arc qui n'est pas fini, qui est remplacé par une espèce de pont de bois.
Oui, que l'on voit sur la peinture.
Oui, oui, oui. Oui.
Qui n'est plus là aujourd'hui.
Oui.
Une vie, une œuvre, Hubert Robert. Coordination, Anne de Biran. Prise de son, Julien Bourdet, Sandrine Bréchaud, Marcel Lebras, Patrice Lecomte. Mixage, Marie-Dominique Bougot.